Bonjour à tous et à toutes sur FM+, 91 FM à Montpellier. Le premier roman qu'un homme ou une femme écrit a toujours quelque chose de fascinant. Ce premier roman peut rester unique, l'œuvre qu'il était essentiel de mettre au jour, mais il peut aussi ouvrir la voie à bien d'autres publications. Ce premier roman publié est souvent la réalisation d'une écriture longtemps enfouie qui, une fois publiée, ressemble à un coup de poing reçu en pleine figure, un coup de poing auquel on ne s'attend pas. Soufiane Euth publie son premier roman, mais point sur les i aux éditions de l'Harmattan, et j'ai aujourd'hui le plaisir de l'accueillir. Bonjour Soufiane Euth.
Bonjour Guylaine.
Alors comme vous n'êtes pas encore populaire, il n'est pas indélicat de ma part de vous demander, Soufiane Euth, qui êtes-vous ?
Vague question. Je suis un Montpellierin, pure souche, si on peut dire. Dans la vie, j'exerce le métier d'éducateur spécialisé auprès des jeunes en situation délictuelle, c'est-à-dire qui ont commis des délits, qui sont en phase de jugement, qui ont été jugés. Voilà, je travaille dans un foyer PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse, qui se trouve à Seine-Neuve, entre Petit Bar et La Paillade.
Pour dérouler ce roman pour nos auditeurs et auditrices, il va de soi que j'ai choisi une expression qui décrit une posture, une attitude. Ça va de soi quand on connaît le roman, mais je vais vous expliquer. Une expression qui court tout le long de votre livre et avec laquelle vous nous donnez la porte d'entrée. C'est d'ailleurs cette expression qui vous sert d'incipit à votre roman. Je suis là, assis. Et pour cette première phrase, le personnage de votre roman est assis sur un banc d'accusés. Alors, ma première question, Soufiane Euth, c'est qui est ce je qui parle ? Je suis assis sur un banc. Suis là, assis.
Ce je, principalement, c'est Kamel.
Kamel
qui est un ami dans ma vraie vie. L'histoire se base sur sa vie, sur ses péripéties, sur cette poisse qui ne le lâche pas. Mais dans le roman, qui est quand même une histoire romancée, il y a mes souvenirs à moi qui se mêlent.
Voilà.
Donc le jeu seul, moi, Kamel, peut-être mon épouse, arriveront à démêler qui est derrière le jeu.
Ouais. C'est un jeu qui a de multiples identités au fond.
En gros, c'est une projection de moi-même, une projection de Kamel, une projection aussi de choses que je n'ai pas vécues mais sur lesquelles j'ai à dire. C'est un regard. En gros, ce que j'ai voulu faire avec ce roman, c'est déjà rendre hommage à Kamel, à son histoire, un peu à l'image des troubadours du Moyen-Âge qui racontaient les exploits des gens célèbres. Moi je viens de La Paillade, d'un quartier populaire, on n'a personne pour raconter nos exploits, c'est souvent par la fenêtre du misérabilisme, du sensationnel. Et donc je voulais raconter une belle histoire, une histoire d'un homme qui, malgré qu'il est à terre et qui repart à terre et qui se relève à chaque fois. Et c'est cette histoire que je voulais raconter avec une belle plume, mais aussi d'aborder des problématiques qui sont beaucoup plus générales, politiques, sociétales, qui concernent tout un chacun, mais qui concernent particulièrement les gens des quartiers populaires, donc voilà, comme la ghettoisation, le racisme anti-blanc, la paupérisation de la population, et le découvert. Voilà.
Alors, pourquoi est-ce que Kamel est assis dans un tribunal ?
Kamel est assis dans un tribunal parce que Kamel est un bagarreur. Il n'est pas innocent dans l'affaire. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe. S'attacher à quelqu'un qui n'est pas du tout un ange, un enfant de cœur. Donc, Kamel s'est battu avec une personne qui était fils du procureur de la ville, d'une ville, de la ville d'Aix dans la réalité. Et du coup, il a pris 3 ans de prison pour un coup de poing. C'est ce coup de poing de départ, qui m'a donné envie d'écrire parce qu'il se passe des choses dans les tribunaux dont on ignore totalement la portée et qui scandaliserait la plupart des personnes qui seraient confrontées. Donc voilà, donc il a pris 3 ans de prison pour cela. Et du coup, je raconte son histoire.
Pour cela, parce qu'il avait déjà donné des coups de poing à d'autres personnes et ça n'avait pas eu autant d'incidence.
Sa première condamnation quand même. Donc, c'est surtout en fait comment c'est joué le procès. En fait, la messe était dite, c'était une mascarade sans manquer de respect à la justice, mais des fois elle est assez expéditive, surtout quand les gens viennent de certains quartiers, de certaines zones géographiques. Voilà, ce sont des choses qui sont assez connues, mais c'est vrai que c'est jamais raconté d'une façon personnelle, intime et émouvante, quoi, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors, si nous passons au chapitre 2, et si nous suivons toujours notre fil conducteur de cette assise sur un banc, vous dites dans ce chapitre, « Et je suis là, assis sur mon banc, entre quatre murs, entre quatre durs, qui dans leur marcelle me harcèlent. » Et nous sommes passés donc du banc de l'accusé au banc de la prison. Donc Kamel, là, se retrouve dans cette prison de Villeneuve-les-Maglones.
En fait, j'ai essayé de ne pas m'attacher à un territoire. Donc ça se passe à Grasse, mais tout se passe à Montpellier, dans ma tête, parce que c'est la prison de Villeneuve-Maglone, c'est celle que je connais le mieux en tant que visiteur. Donc oui, c'est celle-ci, plus ou moins. Et en gros, ça importe peu. L'image du banc revient comme un métronome, en fait, pour rappeler, symboliser cette mise au banc social qui se lit et qui transpire à travers tous les pores des pages du livre. Le banc, la banlieue, la mise au banc à un lieu de la ville. Voilà, toute cette étymologie très prégnante des quartiers, parce que ça s'appelle quand même les banlieues, c'est pas un hasard. J'ai voulu la retranscrire par une phrase très simple, qui s'imprime comme un tatouage.
Une phrase très simple, mais qui évolue quand même.
Qui évolue tout au long du livre.
Et c'est à partir de ça qu'on peut vraiment aussi dérouler ce roman.
Tout à fait. C'est une sorte de guide, une sorte de marque-page. C'est quelque chose qui revient. En gros, pour un peu vos auditeurs, j'ai construit ce roman à travers, l'architecture de la série Oz. Oz est une série qui se passe en prison. D'ailleurs, son sous-titre, c'est l'enfer carcéral, où l'action est découpée par des pauses méditatives où le narrateur de l'histoire est dans une bulle de verre, vraiment dans une prison de verre, et où il raconte une anecdote. Ça peut être un premier baiser, ça peut être la mémoire du poisson rouge, une erreur d'orthographe sur un nom et l'impact que ça a dans l'histoire, dans les archives. À partir de là, il en arrive à une morale. Une morale qui ne se lit pas du tout aux premières minutes d'épisode. Et à la fin, on trouve un sens. Ou en tout cas, moi, j'y trouvais un sens. Et je pense que chacun trouve un sens différent. Et donc voilà, j'ai voulu en fait avoir la narration entrecoupée de pauses méditatives qui symbolisent un peu grossièrement l'évolution intérieure de Kamel. C'est quand même un récit initiatique que ce récit-là.
Alors, si vous appelez cela des pauses méditatives, il y en a une qui m'a particulièrement plu, que je trouve plutôt, qui pour moi est très intéressante, c'est celle de la visite conjugale. Et celle-ci, elle est introduite par cette posture-là, je vous cite, « Et je suis là, assis sur mon banc, un échiquier en bois d'olivier devant moi. » Et cette phrase est extraite donc du troisième chapitre et vous décrivez ici la visite conjugale durant laquelle le prisonnier et sa femme jouent aux échecs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au lieu de dire « Ah oui, c'est un événement extraordinaire, je vais enfin voir ma femme », vous insistez sur l'ennui. Que se dire quand on est séparé, on joue aux échecs et à partir du jeu des échecs, une communication se réinstalle.
Je dis dans ce roman que la prison procède à une macération des âmes. L'expression pour moi est très bienvenue et je ne sais pas si vous-même personnellement vous avez déjà visité un prisonnier, ça dure 45 minutes plus ou moins, la visite, parce que le temps après le protocole dure des heures, mais 45 minutes, même si c'est un fils, même si c'est un frère, même si c'est un mari, c'est long. 45 minutes, c'est long. Le quotidien d'un prisonnier, d'un taulard, n'est pas ce qui est le plus distrayant possible. Donc, se dire des choses, c'est très, très, très compliqué. La première visite, on raconte comment vont les enfants, comment ça se passe à l'extérieur. La deuxième visite, un peu moins. Après, à un moment donné, on n'a plus rien à se dire. Donc, moi, j'avais trouvé...
C'est paradoxal pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers.
C'est totalement paradoxal, mais il y a aussi le fait de trop en dire... Ça rend aussi malaise. Il y a un malaise en fait. Trop en dire, c'est-à-dire que nous on vit, le temps est suspendu pour la personne à l'intérieur. La personne a des phases de déprime à partir des 6 mois d'incarcération. Parce que, bon, au début, tout est rose. on se ment à soi-même, on dit oui, ça va, je tiens le coup. Au bout des 6 mois, c'est un peu plus dur. Il y a, bon, il y a des phases comme ça qui sont très compliquées en tant que visiteur, parce que vous venez ponctuellement, vous êtes dans votre vie et vous, vous ne vous arrêtez pas de vivre. Hein. Vous allez au travail, vous rigolez, vous allez au restaurant, vous êtes amoureux. Bon, vous avez votre vie normale. Et c'est vrai que c'est un peu comme un deuil, rendre, quelqu'un, rendre visite à quelqu'un en prison. Les gens ne sont pas heureux, pas parce que ça leur fait de la peine ou quoi, mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie aussi de... C'est à un moment donné, quand quelqu'un a faim, vous ne mangez pas devant lui. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est comme ça que j'ai toujours visité les gens.
Ou alors, on lui offre à manger.
Il faut lui offrir la liberté.
C'est compliqué dans ces cas-là.
Disons que c'est illégal.
C'est ça, c'est illégal. Continuons notre parcours dans ces postures d'assises. Et je suis là, assis sur un banc, plutôt un bloc de granit brut, posé là, tout comme on nous a posé là, de façon brute et définitive. Dans ce chapitre-là où vous placez cette phrase, ça c'est le monde de l'enfance qui surgit, le monde de la mère aussi, le monde de la mère de Kamel, et le monde de la mère, de cette mère puissante, active, dynamique, qui lui inculque les règles de la vie.
Voilà, là du coup, c'est un de mes souvenirs, c'est ma mère qui est décédée d'un cancer il y a de cela 11 ans. Et donc j'avais envie de lui rendre honneur, j'avais envie de retranscrire ce que je ressentais, ce que je n'ai pas pu lui dire aussi à son départ. Et c'est vrai que dans les quartiers, bon, les familles monoparentales, il y en a énormément en France entière, mais dans les quartiers, la précarité, la pauvreté, les difficultés font que la mère est confrontée à un mur de problèmes, surtout à l'époque, beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. C'est peut-être relatif, mais voilà, une mère doit être un père, doit être une travailleuse, doit être tout en fait pour son
elle
enfant.
Elle assume tout.
Son caractère de femme disparaît et ça devient une mère entièrement. Et ne serait-ce que pour cela, ce sacrifice-là, c'est-à-dire d'avoir détaché une partie de soi-même pour se consacrer totalement à ses enfants, ça mérite d'être mis à l'honneur. Et c'est pas si original que ça, en tout cas, on me l'a fait remarquer. C'est vrai que dans le monde du rap, qui provient aussi de ces genres de quartiers-là, les mères ont toujours une place particulière, beaucoup plus qu'ailleurs. Beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a une sacralisation de la mère. Et c'est pas une mignonnerie, c'est pas juste pour faire un style pseudo-romantique. S'il y a vraiment un amour et un attachement de la mère, en fait, on ne serait pas grand-chose sans nos mères, les pères étant souvent absents, ou n'ayant pas forcément, même s'ils sont présents physiquement, n'ayant pas forcément cette puissance. J'aime bien ce mot que vous dites, c'est une puissance. Et d'ailleurs, il y a l'anecdote du braquage qui est une histoire vraie, hein où ma sœur était restée dans l'épicerie pendant qu'il y a eu un braquage de l'épicerie, où tous les hommes autour regardaient ce braquage se faire, qui était d'une violence quand même. Ma mère qui est rentrée ni une ni deux, qui a donné un coup d'épaule au braqueur, qui ne lui a même pas parlé, hein, lui a juste dit « Vous faites vos affaires, moi je cherche ma fille et fermez-la. » quoi. Et quand elle est sortie, elle a incendié, elle a fait la morale à ces hommes qui n'en étaient pas, en tout cas à ce moment-là, hommes dans la posture viriliste, en tout cas, dans la fonction homme. Et alors, voilà, elle leur a dit 4 vérités. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent vu des femmes courageuses et on a tort de penser que c'est le sexe faible. Peut-être au niveau des muscles, mais pas au niveau de l'endurance.
Continuons, si vous voulez bien. Et je suis là, assis, dans un petit coin de la bibliothèque, ce petit livre entre les mains, ce petit livre entrouvert, et je suis assis, repensant à mon oncle d'Algérie. Alors, il s'agit toujours, bien sûr, de Kamel, dont il est question là, dans ce jeu. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là pour cet homme, un livre entre les mains ? Et de quel livre s'agit-il ? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là ?
Kamel, en prison, il a eu... La prison, c'est l'instant de la méditation par excellence. L'instant des questionnements, du regard critique sur soi-même, conscient ou pas. Et Kamel, bien entendu, a eu aussi ce regard conscient, ce regard critique, voilà. Et
ce regard intérieur ?
Intérieur, tout à fait. Il s'est posé la question, pourquoi toute ma vie j'ai eu de la poisse, sans surnom pour les auditeurs, c'est Kamel la poisse, il a toujours eu la poisse. C'est quelque chose... c'est moi qui lui ai trouvé ce surnom-là, mais c'était quelque chose d'avéré. Kamel, c'était toujours celui, il ne fallait pas être à côté de lui, parce que la foudre pouvait vous toucher aussi. Donc, à un moment donné, quand il est arrivé en prison, il s'est posé la question, il a eu ce déclic. Là, c'est, bon, c'est totalement romancé, mais il a eu ce déclic par rapport aux gens qui sont en prison, qui ont une conception de l'islam assez dure. Et il s'est dit, mais moi, je n'ai pas appris ça quand j'étais petit. C'était pas quelqu'un de pratiquant. Mais...
Oui, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam.
Voilà.
Il se présente comme ignorant, finalement, de la religion.
Tout à fait. C'est-à-dire pas du tout pratiquant, pas du tout connaisseur des textes sacrés ou autres. Mais la religion, c'est aussi quelque chose dans le cœur. C'est une spiritualité avant tout. Donc, il s'est dit, mais cette dureté, ce regard dur, cette intransigeance, cette haute... orthopraxie, c'est-à-dire vraiment cette rigidité dans la pratique, c'était pas quelque chose que lui avait enseigné son langue d'Algérie. Et donc, il a pu se replonger dans des lectures. Le Paris de Pascal a été vraiment un déclic. Et aussi, le Coran en tant que tel, c'est-à-dire avec sa calligraphie arabe, ses mots, sa sonorité, sa musicalité. Et là, ce livre-là qui était entrouvert sans être nommé, mais il se devine assez facilement, c'est ce Coran-là. Et il s'aperçoit qu'en fait, ça a été, toute sa vie, ça a été un objet de décoration chez lui, chez ses oncles, chez ses tantes. Tout maghrébin, quel qu'il soit, musulman en tout cas, a un Coran à la maison. Qui n'ouvre jamais, hein, pas forcément, hein, il peut l'ouvrir, il peut ne pas l'ouvrir. Mais il a comme objet, un peu comme l'ail pour les vampires.
C'est ça. On pourrait dire aussi que c'est un musulman sociologique.
Moi, j'appelle ça un musulman culturel.
Tout culturel.
Mmh. C'est ça, c'est-à-dire de culture musulmane. Parce qu'à un moment donné, ça reste un référent culturel. Mais c'est pas une... Ce n'est pas une pratique actuelle.
Je vous propose, Soufiane Euth, de faire une pause musicale avec la chanson de Dizzy Rascal, Sitting Here, Boy in the Corner, que vous avez traduite dans votre livre. Je n'ai pas l'accent.
Vous l'avez juste avant, vous l'avez fracassé.
Je l'ai fracassé. Alors, dites-le pour annoncer cela à Yous, notre technicien.
C'est Dizzy Rascal, Boy in the Corner, Sitting Here.
Back. Still live, get me. Try to do my clear. Get me wagon. Roll deep for life. Live. Look, yeah. I'm just sitting here. I ain't saying much, I just think. And my eyes don't move. Left or right, they just blink. I think too deep and I think too long. Plus I think I'm getting weak, cause my thoughts are too strong. I'm just sitting here, I ain't saying much, I just gaze. I'm looking into space while my CD plays. I gaze quite a lot, in fact I gaze always. And if I blaze, then I just gaze away, I blaze. Cause it's the same old story, shutters, runners, cats and money stacks. It's the same old story, ninja blacks, gun facts and scary facts. Yeah, it's the same old story, window tints and gloves and fingerprints. Yeah, it's the same old story, let's investigate, yeah, the area is great. Cause it was only yesterday, we was playing football in the streets. Yesterday, none of us could ever come to harm. Only yesterday, life was a touch more sweet. Now I'm sitting here thinking, wagwan, get me wagwan. I'm just sitting here.
Sur FM Plus 91 FM à Montpellier avec Dizzy Rascal, choisi par Soufiane Euth, que je reçois pour son premier roman, Mes points sur les i, qui est publié chez L'Harmattan. Donc Soufiane, cette chanson, vous l'avez traduite dans votre livre en français, ce sont des paroles en anglais. Alors pourquoi ce choix de Dizzy Rascal ?
Dizzy Rascal.
Oh là là.
Ouais, Dizzy Rascal est un rappeur londonien de mon âge, que j'ai découvert à 18 ans lorsqu'il a sorti ce premier album, Boy in the Corner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au fil de l'écriture, je suis assis là, c'est exactement ça, sa chanson. I'm sitting here.
Absolument, je suis c'est assis son là. Titre, c'est le titre c'est, de sa chanson.
C'est le titre de sa première, de la chanson, de la première chanson de son premier album, et c'est l'image qu'il a sur la jaquette. Et je ne m'en étais pas rendu compte, il y a eu une porosité immense, en fait, entre cette chanson-là, que j'ai écrit mon livre, j'avais 28 ans, quelque chose comme ça, donc que j'ai découvert 10 ans plus tôt, que j'écoutais bien entendu, mais encore, mais que j'avais découvert 10 ans plus tôt, et cette spécificité de mon livre d'avoir ce métronome, « Je suis assis là », qui est exactement le même métronome qu'il a lui. Et quand je l'ai traduit à un moment donné, bon, je l'ai traduit instantanément dans mon esprit, mais en fait, il a écrit exactement comme moi. Et donc,
lui est à Londres.
Et lui est à
et
Londres.
Et vous étiez à Montpellier.
Exactement. Et donc, quand je l'ai traduite en français sur papier, et en fait, on ne peut faire aucune différence entre son écriture et la mienne. J'ai été totalement intrigué par ça, en me disant, il faut s'en servir. C'est-à-dire, il faut vraiment que ça apparaisse. Et parce qu'on vit les mêmes choses. J'ai tendance à dire que la culture de la banlieue, c'est-à-dire la culture du pauvre, c'est-à-dire ce que KRS-One, un rappeur américain, avait traduit par le street knowledge, c'est-à-dire la connaissance de la rue. Il disait, c'est comment faire $1 avec 50 cents. Cette intelligence-là, cette culture-là, elle est la même de partout dans le monde. Et je pense que c'est la vraie, et ça c'est peut-être un parti pris, la vraie culture universelle, la vraie universalité.
La vraie mondialisation.
Non, pas la mondialisation, parce que c'est une culture populaire. Mais en tout cas, ce que chacun peut comprendre, c'est cette culture-là, cette culture du pauvre. Tout comme la meilleure gastronomie, ça a toujours été des plats de pauvres. Quel que soit le pays. Le raffinement est venu après. Et moi, après, là, on déborde un peu, mais moi, je vois la bourgeoisie, en tout cas l'embourgeoisement, comme quelque chose de stérile. Donc, il se réapproprie, c'est la réappropriation perpétuelle de l'art populaire dans quelques facettes, quelle que soit la facette. Et donc, j'avais envie que ça existe dans mon roman, cette inspiration qui n'en est pas une, puisque consciemment, je ne me suis pas du tout inspiré, même inconsciemment, j'avais pas du tout ça à l'esprit. Mais il y a une porosité totale entre les quartiers, quels que soient les pays. Ayant voyagé dans le monde entier, je me suis senti beaucoup plus proche à Brooklyn, dans le Bronx, quoi, dans les quartiers à New York, qu'à Paris. Centre-ville, je parle. Voilà.
Alors, nous avons déroulé votre livre « Mes points sur les i » sous Soufiane Heuth en voyant cette posture d'assise. Et j'ai toutefois là, maintenant, une intervention à faire sur cette phrase. « Et je suis là, debout, en file, faisant la queue bien docile. On est le 5 du mois. » Au moment où Kamel se redresse, c'est pour aller à Pôle emploi.
À la poste, exactement.
À la poste.
Parce que Kamel, quand il est sorti de prison, il était criblé de dettes, sa copine l'avait quitté. Là, je spoil un peu le lecteur. Et donc, il y a quelque chose qui est au quartier. Peut paraître saugrenu pour les gens qui ne sont pas du quartier, mais le 5 du mois, il y a une queue pas possible à la poste. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens vont retirer l'argent en liquide. C'est là où tombent les différents salaires, les différentes prestations sociales, etc. etc. La précarité aidant, les gens retirent pour pouvoir rembourser leurs dettes à leur rythme. Parce qu'à un moment donné, il faut bien manger, il faut bien vivre, même si on est pauvre. Et donc Kamel, se lève. C'est paradoxal.
C'est paradoxal.
Je n'avais pas du tout fait cas de ça. Vous me le faites remarquer, c'est intéressant, c'est paradoxal. Il est debout.
C'est paradoxal, et c'est qu'en étant debout, il rentre dans les rangs.
Exactement, les rangs de la pauvreté, les rangs de je ne sais pas si vous êtes déjà tenu debout dans cette file-là. C'est hyper frustrant parce que on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette urgence-là ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mal gérer ma thune ? Et on culpabilise au final. On culpabilise en disant, je suis une mauvaise personne, c'est pour ça que je suis pauvre, je gère pas. Ou X choses, mais c'est vrai qu'on se sent pas à l'aise, alors qu'on devrait l'être. On devrait l'être parce que la pauvreté est un état, c'est pas une définition de soi.
Voilà. C'est pas fataliste non plus.
Pas du tout, pas du tout. Mais malheureusement, on le voit aujourd'hui avec des interventions différentes, des interventions de notre président ou autre. Mais on le voit qu'il y a quand même une certaine, on pointe du doigt des pauvres comme si c'était des assistés. Alors que bien sûr, en chiffres, les aides qui touchent, c'est une goutte d'eau comparée aux aides des grandes entreprises et autres. On ne va pas faire de politique, mais si. voilà, le fait que Kamel se retrouve debout parce qu'il rentre dans les rangs justement de cette uniformisation de la pauvreté, c'est-à-dire il faut aller retirer cet argent-là, est symptomatique et je ne saurais pas me prononcer sur... Il faudrait que j'y réfléchisse.
Alors l'une des dernières postures d'assises, elle est superbe. Elle est magnifique, j'ai retenu celle-ci. J'étais assis là-bas, sur une dune, sous un petit nuage, et je contemplais l'immensité. Alors, sans spolier, comme vous dites, la fin, on ne va pas dire vraiment comment ça se termine, mais à nouveau là, dans ce désert, c'est un souvenir d'enfance qui ressurgit. L'enfance, elle est là aussi, il me semble, dans votre livre, pour redonner cette humanité en lui, pour redonner ce qui fait sa vraie nature au fond. L'enfance avec sa mère, on a parlé de l'enfance tout à l'heure encore, l'enfance elle est là pour le structurer et pour lui dire la vie elle est là, va la chercher parce qu'elle existe. Et pas forcément sur ses bancs d'accusés.
Vous avez une lecture très très fine et très très pertinente du roman. Je crois, c'est une croyance, que l'enfance structure toute notre vie. C'est des leçons qu'on a apprises mais qu'on n'a pas comprises. Et donc en fait, en tant qu'adulte, malgré nos certitudes, on ne fait que redécouvrir, comme une sorte de réminiscence éclairée, on ne fait que redécouvrir ce qu'on a déjà appris. Et si on avait été moins bête ou moins obtus, on n'aurait pas forcément eu ce chemin-là, mais si on n'avait pas eu ce chemin-là, on n'aurait pas eu cette redécouverte-là. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et je pense qu'on ne fait que redécouvrir, et d'où l'importance des parents, d'où l'importance de la mère, d'où l'importance des paroles bienveillantes aux enfants. On peut sévir, mais toujours avoir des paroles qu'ils ne comprendront pas. Hein. Moi, dans mon métier, je le vois, les jeunes, ils peuvent comprendre 5 ans après une chose qu'on a dite, mais il faut les dire. On ne dit jamais les choses en vain. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout en la répression, parce que la répression, c'est l'immédiateté de la sanction. Mais en aucune manière, on ne peut donner une leçon en sanctionnant quelqu'un. On ne peut pas demander du respect en fouettant quelqu'un. La prison est un fouet social, surtout quand ça touche une certaine catégorie de personnes en chiffres. Il faudrait se poser des questions. Et voilà. Donc, et cette histoire de désert, j'ai un amour... infini pour le désert. J'y fais mon pèlerinage chaque année, chaque fois que je retourne en Algérie. Le jour où vous allez dans le désert, vous comprenez que vous êtes peu de choses. Et le jour où vous comprenez que vous êtes peu de choses, vous arrêtez de croire que votre vie est importante, ou en tout cas plus importante que celle des autres. Notre vie, elle n'a aucune importance, en tout cas aucune sorte d'importance, si ce n'est celle de continuer d'avancer, pas plus.
Un grand merci, Soufiane Haut, pour votre roman « Mes points sur les i » et d'être venu sur FM+, nous raconter tout ce qu'il y a derrière ce petit roman de 150 pages à peine. Merci encore.
Merci à vous, c'était très plaisant.
Au revoir.
Au revoir.